Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce cours sur le glaucome destiné à vous expliquer de manière à la fois simple mais également complète les traitements actuels et la prise en charge du glaucome. Je ne vous rappellerai que brièvement que le glaucome est une cause majeure de cécité, malheureusement souvent bilatérale et définitive, sans aucun moyen de traiter une fois que la cécité est installée. On estime qu'il y a 60 millions de personnes touchées dans le monde, 6 à 8 millions d'aveugles, et en France, les chiffres de la Sécurité sociale montrent qu'il y a entre 1 300 000 et 1 500 000 personnes traitées pour glaucome ou hypertonie oculaire. Il existe en fait deux grands types de glaucome. Le glaucome à angle ouvert, qui est le plus fréquent, souvent très sournois car peu douloureux, attaquant la vision par les côtés de manière assez discrète, jusqu'à ce que cela s'approche du centre pour en détruire la vision. Le glaucome à angle fermé ou par fermeture de l'angle est lui plus agressif. On parle souvent de crise de glaucome aigu. Il peut donc être douloureux. Et s'il est diagnostiqué à temps, il est parfois plus facile à traiter de manière définitive. Quand on parle d'angle, on parle de la structure qui se situe entre la cornée en avant et la sclère, à la jonction entre le blanc et la partie transparente, et l'iris. En effet, c'est à ce niveau que se situe un canal d'évacuation, le canal de Schlemm, un canal circulaire, dont la paroi interne est en fait creusée en une sorte de maille, de réseau, qui permet à l'humeur aqueuse d'être filtrée avant d'être évacuée. Un œil est comme un organisme vivant, il y a en permanence une entrée d'eau, une sécrétion d'eau qui se situe en arrière de l'iris, qui circule vers l'avant pour être évacuée à travers ce canal. Le trabéculum est donc la paroi du canal. On voit sur cette photo histologique les cellules trabéculaires en rouge et les fibres vertes qui correspondent au réseau. Mais dans le glaucome, glaucome à angle ouvert en particulier, ce réseau est malade. Il est encombré de matière, de protéines en particulier, et les cellules assurant l'auto-nettoyage ne peuvent plus fonctionner normalement. Il y a donc un encombrement qui va permettre à la pression oculaire d'augmenter puisque l'eau s'évacue mal alors que sa sécrétion reste constante. Mais si le glaucome est une maladie de l'écoulement de l'humeur aqueuse, la victime se situe en arrière, à l'opposé, et c'est le nerf optique. Or, le nerf optique conduit la vision, pas uniquement l'acuité visuelle centrale, mais l'ensemble de la vision, et cela va donc créer un flou, voire une destruction progressive de la vision périphérique. Il s'agit là du mécanisme du glaucome à angle ouvert, où le filtre est malade. Le glaucome à angle fermé, ou par fermeture de l'angle, quant à lui, comme on peut le voir sur ces différents types d'imagerie, correspond au blocage par l'iris de l'accès au filtre. Le filtre est normal, en tout cas pendant longtemps, mais l'iris venant se coller à son niveau, celui-ci va empêcher l'humeur aqueuse d'accéder au filtre et donc va entraîner des montées de pression. On voit très bien sur ces imageries modernes la différence entre la partie basse, l'angle est largement ouvert, et la partie haute où l'iris est presque collée à la paroi. Un élément déterminant dans le glaucome par fermeture de l'angle est le blocage pupillaire, c'est-à-dire le passage de l'iris vers l'avant et donc le contact avec le filtre d'évacuation lorsque la pupille se dilate. Celle-ci peut se dilater sous l'effet de certains médicaments qui peuvent être responsables de crises de glaucome aiguë. Et vous savez probablement que lorsque un médecin veut prescrire certains médicaments, la question du glaucome éventuel est posée, puisque de nombreux médicaments, antidépresseurs, anxiolytiques, antiparkinsoniens, parfois des antalgiques également, peuvent entraîner cette dilatation responsable d'une crise de glaucome aiguë sur les yeux prédisposés. Tout le monde ne fera pas ce problème. Mais ceux qui ont des angles étroits peuvent effectivement avoir ce type de complications. Il est donc très difficile de diagnostiquer le glaucome par fermeture de l'angle, puisqu'en dehors des grandes crises douloureuses, la tension monte la nuit à la dilatation, puis se normalise le jour lorsque la pupille se resserre et donc que le filtre redevient accessible. C'est donc la forme de l'œil, certains facteurs de risque comme l'hypermétropie, parfois une grosse cataracte qui peuvent être des signes d'alerte. Et si certains patients se plaignent de douleurs dans la tête ou dans les yeux à caractère nocturne, beaucoup n'y font pas attention ou n'ont pas des poussées suffisamment importantes pour être réveillés. Je veux donc souligner le fait que l'aspect est celui d'un patient présentant une neuropathie glaucomateuse, donc une atteinte du nerf optique importante, souvent déjà très évoluée, alors que la pression est normale. La tentation pourrait être de conclure à tort à un glaucome à pression normale, alors qu'il s'agit bien d'un glaucome avec des pressions élevées. Comment on le traite? Eh bien, puisqu'il s'agit d'un élément mécanique, on va en général perforer l'iris par une iridotomie au laser ou plus rarement chirurgicale, de manière à empêcher ce mouvement de pression et donc de positionnement vers l'avant de l'iris lors de la dilatation. Ce traitement est en général anodin, peu dangereux et va pouvoir régler presque toujours le problème. Mais le cristallin occupe beaucoup de place dans l'œil et parfois une chirurgie de la cataracte, lorsque celle-ci est justifiée, peut aussi régler le problème des crises de glaucome aigu et de ces formes particulières de glaucome par fermeture de l'angle. On voit donc qu'on est plutôt dans un traitement de type chirurgical ou pseudo-chirurgical, puisque le laser est un peu différent et beaucoup moins agressif que la chirurgie, mais malgré tout, il est également, d'un point de vue mécanistique, un traitement aigu et en général définitif. Cependant, il peut arriver que, à force d'avoir des pathologies, des accolements de l'iris sur le filtre trabéculaire, celui-ci devienne malade et on peut avoir des formes de glissement d'une fermeture de l'angle vers une physiopathologie mixte qui ressemble à celle du glaucome à angle ouvert. Comment traite-t-on celui-ci? Aujourd'hui, un seul traitement a montré son efficacité par toutes sortes d'études qui ont confirmé ce que empiriquement déjà les anciens, déjà à la fin du 19e siècle, avaient compris, il faut baisser la pression oculaire. Vous avez compris du cours précédent du professeur Labbé que glaucome et pression oculaire n'étaient pas synonymes, mais la pression oculaire, en tout cas son augmentation pathologique, est le facteur de risque principal. C'est donc sur la pression oculaire que l'on peut agir. Alors on peut agir à deux niveaux. On peut agir sur la production par des médicaments, au premier rang desquels les bêta-bloquants qui vont diminuer la sécrétion d'humeur aqueuse par le corps ciliaire, les alpha-2 agonistes, les inhibiteurs d'anhydrase carbonique. Vous pouvez connaître le Diamox, comprimé très puissant et très efficace, mais très mal toléré. Il existe aussi des inhibiteurs d'anhydrase carbonique locaux. Pour ce qui est de l'évacuation, on distingue deux voies, la voie trabéculaire qui est celle dont j'ai parlé précédemment, mais il existe aussi une voie accessoire chez l'homme qui consiste à ce que l'humeur aqueuse traverse l'iris, la base de l'iris, dans l'angle iridocornéen en arrière du trabéculum. C'est une voie accessoire qui, chez l'homme, compte pour 10% de l'évacuation, ce qui est peu, mais qui peut augmenter sous l'effet de certains médicaments. Et c'est en particulier le succès immense qui a été celui du développement des prostaglandines dans les années 90, puisque la première prostaglandine a été commercialisée en 1997. On peut aussi agir sur la voie du trabéculum pour l'améliorer avec un vieux médicament, la pilocarpine, très ancien, le plus ancien d'ailleurs, que l'on utilise assez rarement actuellement en raison de sa tolérance, mais qu'on peut utiliser pour resserrer la pupille dans les fameux glaucomes par fermeture de l'angle. Et puis une nouvelle famille thérapeutique qui n'est pas encore arrivée en Europe, mais qui est déjà là au Japon et aux États-Unis, les inhibiteurs de la voie rokinase, une enzyme qui agit sur le filtre trabéculaire. Aujourd'hui, les traitements les plus importants sont en première ligne les prostaglandines et les bêta-bloquants. La seconde ligne étant apportée par l'association prostaglandine-bêta-bloquant, la troisième ligne par les inhibiteurs d'anhydrase carbonique. Il existe de nombreuses combinaisons permettant d'associer de manière variée ces différents médicaments. Et en quatrième ligne, on va retrouver les alpha-2 agonistes, dont malheureusement la tolérance n'est pas toujours très bonne. Ainsi, le schéma général de la thérapie du glaucome est assez bien établi. On commence en général par un médicament. S'il n'est pas suffisant, on va en rajouter deux, voire trois. 40% des glaucomateux sont traités par des combinaisons de traitements, au moins deux molécules. Et puis, on peut, lorsque cela ne suffit pas, utiliser les techniques de laser qui jouent sur le filtre d'évacuation, éventuellement recourir à la chirurgie, qui malheureusement n'est pas toujours définitivement efficace, il y a des échecs qui ont peut-être amené à remettre des collyres, et ainsi de suite. L'histoire s'est considérablement accélérée. En un siècle, pratiquement, trois médicaments, ce qui veut dire qu'il n'y en avait que deux jusqu'à 1978, lorsque le grand mouvement, le grand progrès a été obtenu par le développement du premier bêta-bloquant, le timolol, sous le nom commercial de Timoptol, qui existe toujours, mais le timolol est extrêmement utilisé sous toutes sortes de noms, car il est l'élément principal de nombreuses combinaisons fixes, en particulier avec des prostaglandines ou avec des inhibiteurs d'anhydrase carbonique. Beaucoup de patients ne sauront pas forcément qu'ils sont traités par timolol parce que le nom commercial diffère, mais c'est un médicament extrêmement utilisé. Et puis, dans les années 90, trois nouvelles familles thérapeutiques, presque d'un coup en quelques années, qui ont conduit à des médicaments différents, mais surtout de nombreuses combinaisons. La grande révolution, c'est donc 1996-1997, avec l'arrivée de la première prostaglandine, sous le nom commercial de Xalatan, qui est du latanoprost, que l'on va retrouver maintenant sous différents noms et différentes déclinaisons, suivi de deux autres prostaglandines, le travoprost, Travatan, et le bimatoprost, Lumigan. Les années 2000 ont plutôt été celles de la consolidation, c'est-à-dire l'amélioration dans le but de permettre aux patients d'être traités plus facilement, mais également d'avoir une meilleure tolérance. Ça a été un grand progrès avec ce que l'on appelle les associations fixes. Si vous mettez deux médicaments ensemble dans le même flacon, vous allez avoir le même traitement avec deux gouttes par jour plutôt que quatre. Comme les traitements ont, ou en tout cas avaient beaucoup dans cette période-là de conservateurs, de passer de quatre gouttes à deux gouttes, c'est une manière aussi de diminuer par deux la quantité de conservateurs administrés sur l'œil. On voit donc qu'il y avait un grand intérêt, et pour l'anecdote, les Américains qui ont des modes de raisonnement parfois différents, que l'on croit très en progrès mais qui ne le sont pas toujours, ont plutôt refusé et les notions d'observance et les notions de tolérance en les négligeant, et sont extrêmement en retard par rapport à l'Europe, par rapport aux associations fixes, qu'ils commencent à peine à accepter, et encore pas toutes, puisque nous en avons beaucoup plus en Europe à notre disposition. L'autre grand progrès est la reconnaissance de la toxicité des conservateurs et donc le développement de produits sans conservateurs. Progrès, régression, on peut le voir sous différentes formes, l'arrivée des génériques. Les génériques ont un inconvénient, c'est qu'ils posent des problèmes de confiance. Certains génériques ne sont pas totalement identiques à leur produit principal. C'est un débat que vous connaissez sur bien d'autres domaines que l'ophtalmologie. Mais il faut reconnaître qu'ils ont eu le mérite d'ouvrir la possibilité à des laboratoires d'avoir accès à des médicaments qui étaient protégés par des brevets. Et lorsqu'il s'agit non pas uniquement d'un intérêt économique, mais de changer la formulation pour l'améliorer, c'est incontestablement un avantage. Par exemple, c'est la présence de ces génériques qui a permis à certains laboratoires, notamment des laboratoires français qui sont très en pointe, d'utiliser les produits pour en faire des formulations sans conservateur. Ce sont donc deux éléments qui sont liés l'un à l'autre. Ainsi, la fin de la première décennie des années 2000 a été celle de la tolérance, la to reconnaissance que les médicaments peuvent impacter considérablement la qualité de vie. On connaissait déjà les effets systémiques des bêta-bloquants, qui sont les mêmes au niveau local qu'au niveau général, mais dans des proportions bien moindres, car les quantités sont très faibles. Essoufflement quand même, ralentissement cardiaque, hypotension, mais aussi mauvais sommeil, perte de libido, dépression, ce dont les patients ne se plaignent pas toujours ou n'osent pas se plaindre quand il s'agit d'éléments à caractère très personnel, voire totalement intime. Les ophtalmologistes en ont une certaine conscience, mais il faut reconnaître que le temps manquant lors des examens, ces aspects sont parfois un peu mis de côté. Et c'est évidemment bien dommage. Les effets locaux des collyres sont également importants. Ils sont sous-estimés à la fois par leur fréquence et par leur importance. Et je dois dire que toute ma carrière, je me serais intéressé à ces effets secondaires pour essayer d'en identifier les mécanismes et d'essayer de l'améliorer lorsque cela est possible. Par exemple, un effet un peu particulier de la famille des prostaglandines est celle de la coloration irienne. Alors, pas les yeux marrons qui restent marrons, mais ni les yeux totalement bleus qui n'ont pas tellement de possibilités de se colorer, mais les yeux verts ou marron clair vont, malheureusement, au bout d'un an ou deux, devenir beaucoup plus marron. Ce qui peut être un problème considéré comme anecdotique par rapport aux enjeux par certains patients, mais qu'indiscutablement, on ne peut pas imposer à quelqu'un sans lui en donner les informations. Anecdotique, oui et non, aussi un effet des prostaglandines, la pousse des cils, qui peut être très jolie et très spectaculaire chez les femmes, et d'ailleurs aux États-Unis, il existe un gel de bimatoprost qui a précisément cette indication, faire pousser les cils et les allonger, mais qui chez un homme, comme c'était le cas de cette photographie que j'ai prise sur un de mes patients, n'est que modérément apprécié, et vous imaginez quand il s'agit de ne traiter qu'un seul œil. Mais beaucoup moins anecdotique, et souvent beaucoup plus chronique et invalidant, des phénomènes qui touchent ce que l'on appelle la surface oculaire. Les paupières, le film lacrymal, la cornée, la conjonctive. Il peut s'agir d'allergies qui peuvent être spectaculaires peu de temps après un traitement ou retardées dans le temps, beaucoup plus longtemps après, parfois plusieurs mois ou plusieurs années après avoir initié le traitement. Il peut y avoir aussi des réactions toxiques qui vont être d'autant plus importantes qu'il y a plusieurs produits qui s'associent et donc plusieurs doses de conservateurs. De simples irritations, mais qui peuvent être à la longue très désagréables, avec des sensations de brûlure, de sécheresse, des rougeurs, donc des yeux assez abîmés, qui vont être de plus en plus désagréables au fil du temps, tant qu'y passe l'âge, et tant de traitement, avec éventuellement la montée en puissance des gouttes, de plus en plus de collyres, qui vont évidemment exercer des effets cumulés. Parfois, il s'agit d'une simple sécheresse oculaire, ce que l'on appelle une rupture du film lacrymal, qui du coup ne peut plus protéger correctement l'œil, et cela va entraîner des sensations très désagréables, plus ou moins marquées, mais parfois invalidantes, de sécheresse oculaire. Souvent, les patients, quand ils vieillissent, ou lorsqu'ils avaient commencé leur traitement plusieurs mois ou plusieurs années auparavant, et il faut bien dire, souvent les médecins font la même mauvaise analyse, considère que ces manifestations décalées dans le temps sont sans relation avec le traitement, alors qu'elles le sont, ou d'une gravité qui n'est pas comparable à celle de risquer de devenir aveugle. Il est bien évident que perdre la vue n'est pas comparable en gravité à avoir une souffrance chronique, pas toujours très intense, heureusement. Mais la question, lorsqu'on est dans un traitement qui va durer toute la vie, qui peut éventuellement être initié très tôt dans la vie, à la quarantaine ou à la cinquantaine, avoir une souffrance chronique que l'on subit tous les jours ne doit pas être le prix à payer pour conserver une bonne vision. C'est l'image de la monture qu'il faut évidemment ménager pour voyager longtemps. Cette image permet de bien comprendre que l'initiation d'un traitement doit considérer non seulement son efficacité dans le suivi, mais également sa tolérance. Et c'est là que la découverte que j'ai faite, puis que j'ai conduite, et qui a été confirmée dans le monde entier, du rôle, sinon exclusif, mais très important, du conservateur, a permis de changer considérablement la qualité du traitement et son efficacité et sa tolérabilité. Le principal conservateur est le chlorure de benzalkonium, que l'on résume souvent sous l'acronyme de BAK. Ce chlore de benzalkonium est un excellent produit que vous connaissez très certainement car il est largement utilisé dans les salles de bain, souvent d'ailleurs comme pulvérisateur, en pulvérisation pour nettoyer les toilettes ou les baignoires, et où il est d'ailleurs tout à fait efficace. Et c'est donc un produit qui est détergent, qui est toxique, qui tue les microbes et qui est donc un excellent produit pour les salles de bain. Mais il est utilisé dans les collyres pour empêcher leur contamination. Et il faut reconnaître que si à faible dose il n'est pas très toxique, quand il est mis dans les yeux tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, pendant des années, voire des décennies, il peut à la longue devenir réellement très nocif, puisque dissoudre la couche lipidique du film lacrymal, c'est créer une sécheresse. Être toxique, c'est abîmer, sinon détruire, les couches superficielles de la cornée et de la conjonctive, stimuler les nerfs cornéens, ce qui va entraîner non seulement des douleurs, mais également des réactions inflammatoires. Ce chlore de benzalkonium, il ne faut pas être naïf, ne peut pas être très méchant dans le flacon pour tuer tous les microbes qui auraient eu le malheur de rentrer dans le flacon, et très gentil lorsqu'il est mis sur l'œil. Or, malheureusement, il faut bien reconnaître que beaucoup d'interlocuteurs industriels, médecins, autorités publiques, ont un peu tendance à rester dans cette espèce de fable du gentil méchant. Il existe de très nombreuses études cliniques, expérimentales, sur des tissus, des cellules, des animaux, différents types de modèles qui ont vraiment largement démontré que le chlore de benzalkonium était toxique. D'ailleurs, c'est connu depuis 1944. Il faut reconnaître que cette toxicité est particulière. Ce n'est pas de l'allergie. Donc, cela se voit de manière décalée. Cela est dépendant de la quantité qui est administrée et du temps d'administration. Donc, le lien entre un traitement qui était initié à un moment puis qui a été accumulé dans le temps et dont les manifestations pourraient être visibles au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, est évidemment contre la logique de se dire qu'il y a un lien direct que l'on pourrait reconnaître. Mais nous avons en tout cas, dans mon équipe, depuis des années dénoncé ces effets toxiques et finalement réussi à pousser les industriels, qui finalement m'ont beaucoup suivi et beaucoup écouté, à développer des formulations sans conservateur. Je ne peux pas résister à vous montrer de jolies images. À gauche, des cellules en culture normales, bien jointives. À droite, après seulement 15 minutes de chlore de benzalkonium, les cellules se rétractent, se contractent, les liaisons entre les cellules se rompent, et donc c'est un effet véritablement de toxicité. Même sans conservateur, les collyres peuvent malheureusement être insuffisamment efficaces. Et donc, on a développé différents types de techniques. L'une très intéressante, c'est la trabéculoplastie au laser. Dès les années 80, on savait qu'administrer du laser, donc de la lumière focalisée sur le filtre d'évacuation, pouvait lui permettre de mieux fonctionner. Et effectivement, cette trabéculoplastie a fait des progrès. Les énergies maintenant sont très faibles parce que l'énergie est focalisée sur les cellules trabéculaires. Et c'est donc un traitement tout à fait intéressant. Le grand avantage de la trabéculoplastie au laser, c'est que c'est peu invasif. On pose une lentille sur l'œil. C'est pas du tout douloureux. Il n'y a aucun risque, sauf quelques risques de poussée tensionnelle ou inflammatoire en réaction au laser, mais que l'on gère en général très bien et qui n'ont pas de conséquences. Avec un inconvénient qui est le fait que la durée d'efficacité est limitée dans le temps. Il faut éventuellement refaire ce traitement, mais au-delà de 2 ou 3 séances maximum, il n'y a plus d'efficacité à espérer. Cette efficacité n'est donc pas toujours prévisible, à la fois dans le temps et dans son intensité, ce qui fait que c'est une cartouche que l'on peut utiliser, qui peut compléter le traitement médical, mais qui ne permet pas de résoudre tous les problèmes. C'est une arme dans l'arsenal, ce n'est pas l'arme absolue, même si on aurait pu l'espérer lorsque cela a été développé. De ce fait, d'autres traitements ont été développés, on arrive au traitement chirurgical. Alors le traitement chirurgical pourrait être proposé à tout le monde. En réalité, on le réserve dans 4 cas. Soit lorsque la pression oculaire reste trop élevée malgré le traitement médical que l'on estime maximal, soit le glaucome continue à progresser malgré ce traitement médical ou éventuellement le laser, soit lorsque le traitement devient source d'intolérance trop importante, ou enfin, ce qui est plus rare mais qui existe, lorsqu'il existe des problèmes d'accès au traitement ou d'administration, d'observance trop difficile pour des personnes qui vivent seules, qui ont trop de mal à mettre les gouttes, et qui ne sont pas aidées, ou dans certains pays étrangers où après 6 mois de traitement, les gens n'ont plus accès aux collyres, ou les collyres sont trop chères, et donc du coup la chirurgie peut être proposée. La chirurgie classique est presque toujours une chirurgie d'évacuation. Alors, la chirurgie de référence, c'est la trabéculectomie. On a amélioré beaucoup en France d'ailleurs, par une technique initialement développée par des collègues russes, la technique de sclérectomie profonde non perforante. Dans les deux cas, on va toucher le trabéculum. Dans un cas, on va le trouer, trabéculectomie, pour que l'eau puisse s'évacuer à travers l'orifice. Dans l'autre cas, on va le nettoyer parce qu'en fait, le trabéculum est constitué de plusieurs couches et que toutes ne sont pas bouchées. On est capable d'enlever la couche qui obstrue la filtration. Pour vous donner une idée des échelles, l'épaisseur de la couche malade que l'on retire est de 30 microns, 1/30 de millimètre. Et la couche que l'on laisse, une fois que l'on a nettoyé celle qui était malade, fait également 30, voire même moins 20 microns, c'est-à-dire entre 1/30 et 1/50 de millimètre. Ça vous donne une petite idée de nos échelles de chirurgie. Et l'évacuation de l'eau qui va sortir donc de l'œil, cet excédent d'eau, va gagner un espace qui se situe sous la conjonctive, ça ne va pas s'évacuer dehors et couler sur la joue, mais sous la conjonctive et former ce que l'on appelle la bulle de filtration. En imagerie, ce que vous voyez en haut à droite, en noir et blanc, c'est une espèce d'aspect spongieux de la conjonctive qui est gonflé, ce que l'on voit à gauche sur la photo clinique. Et donc cet aspect d'éponge, c'est l'absorption de l'excédent d'eau. Il existe un risque que l'on explique à tous nos patients en cas de chirurgie du glaucome, c'est le risque immédiat de complications graves. Tout patient devant se faire opérer de glaucome a évidemment peur de perdre la vue. Nous en sommes très conscients et nous allons l'expliquer. Ce risque est en fait très rare, mais pas totalement nul, parce que la décompression qui permet à beaucoup de liquide de s'évacuer d'un coup peut entraîner des hémorragies, des hypotonies, qui peuvent se produire en cas de choc, mais également en cas de surpression, forte toux, éternuement, vomissement, qui pourraient créer à un moment une situation de fragilité extrême. On parle aussi de neuropathie de décompression quand un nerf optique est très abîmé parce qu'il supporte une forte pression depuis des années. Il peut malheureusement se détruire un peu plus lorsque il subit une décompression et passe à une pression très faible. Mais ces complications sont rarissimes. Et en fait, le vrai problème de la chirurgie, c'est l'échec. L'échec, c'est la remontée pressionnelle qui va nécessiter une reprise en charge qui peut être médicale ou par réintervention. En effet, deux phénomènes vont s'affronter. D'une part, de l'eau qui s'évacue de l'œil à travers une ouverture, même si cette ouverture est voulue, d'un point de vue biologique, ça s'appelle une plaie. Et l'œil va donc enclencher des mécanismes de cicatrisation. De l'autre côté, il y a une surpression d'eau à l'intérieur de l'œil, et comme on a créé une évacuation, l'excès d'eau va donc vouloir s'évacuer dans cet espace. Si la cicatrisation n'est pas suffisante, si elle perd par rapport à l'évacuation, l'œil va rester mou, il va y avoir éventuellement des fuites, et donc il y a un danger pour un œil qui ne sera plus intact et qui ne sera plus capable de se protéger, ne serait-ce que en cas d'accident. Si, à l'inverse, ce qui est malheureusement le plus fréquent, la cicatrisation naturelle est en excès, des cicatrices vont se former sur la zone d'évacuation qui ne fonctionnera plus et donc la pression va remonter. Remise en place de gouttes, laser, chirurgie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré un cycle qui avait l'air d'être un peu sans fin. C'est malheureusement le cas dans un certain nombre de cas. Heureusement, pas la majorité, mais ce schéma existe. Du fait des techniques chirurgicales actuelles et de leurs complications, depuis une dizaine d'années ont été développées des chirurgies dites mini-invasives. Elles peuvent se faire par voie interne ou par voie externe. Elles peuvent toucher le trabéculum, c'est-à-dire le faire mieux fonctionner, un peu comme le laser, ou le traverser. Elles sont moins puissantes, mais plus sûres. Et c'est le cas des stents. Puisque nous pouvons mettre dans le corps, dans le trabéculum, dans le filtre, des stents, comme les cardiologues peuvent mettre dans les coronaires. Nos stents sont évidemment beaucoup plus petits, mais ils ont le même but, ouvrir et maintenir ouvert le canal d'évacuation. On peut aussi faire des chirurgies d'évacuation, des chirurgies dites filtrantes, comme la trabéculectomie, mais avec des tubes qui permettent de mieux standardiser à la fois la mise en place de l'évacuation, son diamètre et donc le débit d'évacuation de l'eau. Mais elles ne sont pas forcément plus efficaces parce que la problématique dont je vous ai parlé de pas assez de cicatrisation ou trop de cicatrisation persiste car il s'agit non pas tellement de la question de savoir comment l'eau sort, mais de savoir comment réagissent les tissus à l'endroit où l'eau s'évacue. Les stents trabéculaires sont donc des micro-dispositifs en titane, 1 mm de long sur 1/3 de mm de large, avec des pores extrêmement fins qui font communiquer l'humeur aqueuse avec le canal d'évacuation. Alors on les met à la suite d'une chirurgie de la cataracte, c'est autorisé uniquement dans ce cas, pour le moment en tout cas, et avec un petit applicateur avec un ressort, on va placer les fameux stents dans le filtre d'évacuation à la fin de l'intervention. Vous l'avez sur la vidéo. Et après avoir mis les stents, ce qui est très rapide, on lave l'intérieur de l'œil, ce qui permet aussi de contrôler la mise en place et le bon positionnement des stents, comme on les voit ici. Les stents sont donc une solution très intéressante lorsqu'il y a une cataracte à opérer. En effet, la situation d'avoir à opérer une cataracte chez quelqu'un qui est traité pour glaucome est une situation assez fréquente, et donc on peut avoir différents types de prise en charge. Soit on se contente d'opérer la cataracte, ce qui fait souvent baisser la tension, mais souvent de manière aléatoire et imprévisible. Un petit peu, pas beaucoup, ça peut être suffisant dans certains cas, mais on peut avoir envie de faire plus. Si ce plus, cet objectif de faire plus, reste modeste, c'est-à-dire qu'on veut diminuer un peu la pression oculaire, on veut diminuer le nombre de traitements. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de patients avaient des trithérapies. Passer d'une trithérapie à une monothérapie, c'est un bel objectif et ça rend beaucoup de services en termes de tolérance et d'efficacité. Dans ces cas-là, cataracte associée à mise en place de stent est la meilleure idée. Dans les cas sévères, la cataracte sera associée à ces fameuses chirurgies dites filtrantes qui peuvent être isolées ou associées à la chirurgie de la cataracte. Ainsi, la chirurgie filtrante isolée ou associée à la cataracte repose aujourd'hui sur quatre techniques: la trabéculectomie et la sclérectomie profonde non perforante dont j'ai déjà parlé, ou la mise en place de tubes. Il existe le tube Xen, Xen gel, un tube de collagène qui s'administre et qui se met en place par voie interne, avec l'avantage d'avoir une chirurgie extrêmement peu agressive, mais toujours les risques de cicatrisation à la sortie du tube, ou un système qui s'appelle le PreserFlo, un tube dans un matériau artificiel qui lui se met par voie externe, donc avec un avantage de positionnement plus parfait, plus standardisé, mais de toute façon, toujours ces risques d'hypotonie relativement rares, mais surtout d'échec par sur-cicatrisation. Pour finir ce panorama, je voudrais vous parler de la recherche. Que fait-elle? Qu'apporte-t-elle? Il existe en fait deux grandes cibles thérapeutiques. Comme je vous l'ai montré, tout ce qui a été fait depuis un siècle s'est porté sur la pression oculaire. Et pourtant, le nerf optique est bien la cible de la maladie. Le nerf optique, si on veut le protéger, c'est la neuroprotection. Si on veut le réparer, c'est la neurorégénération. Régénérer un nerf optique abîmé, voire détruit, est évidemment le but ultime de la recherche. Malheureusement, tout ce qui a été fait en matière de pression oculaire a été riche et on peut dire efficace. Tout ce qui a été fait sur le nerf optique et beaucoup de choses ont été faites, s'est soldé la plupart du temps par un échec, puisque aujourd'hui, il n'existe aucune stratégie de neuroprotection ou de neurorégénération qui soit validée. Il est important de comprendre comment se détruit le nerf optique. C'est un phénomène complexe. La pression peut abîmer les fibres nerveuses, qu'on appelle les axones des cellules ganglionnaires. Elle les abîme parce qu'elle les comprime au moment de leur traversée d'une structure perforée que l'on appelle la lame criblée. Cette compression des axones va les faire détruire et dégénérer progressivement. Mais il existe une théorie alterne dans laquelle beaucoup de chercheurs n'ont pas pu trancher entre la partie mécanique sur les axones et la partie métabolique, c'est-à-dire que la pression écraserait aussi ou préférentiellement les vaisseaux. Et si les vaisseaux nutritifs du nerf optique ne sont plus bien irrigués, ils vont évidemment entraîner aussi une destruction des fibres nerveuses et du nerf optique. Théorie mécanique, théorie ischémique, c'est-à-dire vasculaire, s'associent très probablement plus qu'elles ne s'affrontent. Mais si on fait des modèles expérimentaux de glaucome, la première manifestation de l'hypertonie, que l'on peut voir évidemment que chez un animal, puisque chez l'homme on ne peut pas aller faire des prélèvements de nerf optique, il s'agit d'une réaction inflammatoire qui implique les cellules gliales. Or, les cellules gliales vont elles aussi répondre à ce stress par des libérations de phénomènes toxiques qui vont eux aussi atteindre les nerfs optiques. Pour peu que les systèmes de défense, en particulier de vieillissement ou de lutte contre le vieillissement et le stress oxydant, contre l'inflammation, ne fonctionnent plus très bien, l'ensemble entraîne une neurodégénérescence. Pour compliquer le tout, les cellules nerveuses en souffrance, voire en destruction, vont elles-mêmes libérer des facteurs de mort cellulaire qui vont, on pourrait dire presque, contaminer leurs voisines. C'est ce que l'on appelle l'apoptose secondaire qui est liée à la souffrance des premières cellules. On comprend donc que même lorsque on a diminué la pression oculaire, heureusement pas chez tout le monde, mais dans certaines formes sévères, surtout si des phénomènes circulatoires, vasculaires, comme des hypotensions artérielles, des migraines chroniques avec des vasospasmes, des syndromes de rénaux, ou éventuellement des phénomènes d'oxygénation comme l'apnée du sommeil viennent se greffer sur cette mécanistique complexe, l'ensemble conduit à une espèce de phénomène dégénératif qui peut continuer à progresser même lorsque l'on a essayé, voire réussi, à améliorer la pression oculaire. Un peu à la façon d'un train qui continuerait à avancer même quand on a arrêté d'alimenter sa machine. En matière de neuroprotection, il y a deux axes, deux côtés du levier. On peut soit essayer de lutter contre les facteurs de mort cellulaire, soit essayer d'administrer ou d'augmenter les facteurs de survie. Il en existe plusieurs, tout ça a été très bien identifié, ceux de mort et ceux de survie, mais on ne sait pas encore bien comment les administrer, et peut-être plus que savoir comment les administrer, c'est la question de comment les évaluer dans des phénomènes dégénératifs très lents. La neuroprotection correspond cependant à un vrai besoin. Et donc il y a beaucoup de recherches qui a été faite pour essayer de protéger un nerf optique, car 15% des glaucomes ont une pression réellement normale, avec probablement des phénomènes circulatoires associés, et à peu près autant que ces 15% sont des glaucomes qui avaient une pression initialement élevée, mais qui continuent à s'aggraver malgré une normalisation de la pression. Et donc beaucoup de travaux ont été faits, et je ne vous cache pas que beaucoup de laboratoires ont compris que s'ils arrivaient à développer des molécules capables de protéger le nerf optique indépendamment de la pression, ils auraient un très grand avenir et un très très grand succès. Mais malheureusement aujourd'hui, tous les essais cliniques ont échoué, même si certains étaient très prometteurs, et aucun produit n'est actuellement autorisé pour une indication de neuroprotection. Vous comprenez malheureusement que la neurorégénération est encore plus éloignée, puisqu'on n'est pas capable de faire marcher les tétraplégiques ou les paraplégiques ou les hémiplégiques, on n'est pas capable de restaurer le cerveau en cas de dégénérescence, que ce soit vasculaire, par AVC ou Alzheimer, donc bien sûr le nerf optique est dans la même famille. Pourtant, ce rêve n'est peut-être pas très loin. En tout cas, si je veux partager ces informations, c'est parce que certaines stratégies ont été parfois médiatisées ou que certains mots sont un peu magiques. Je parlerai en particulier des cellules souches ou de la thérapie génique. D'autres pistes, notamment anti-inflammatoires, ont été testées ou avec des produits permettant de modifier le système immunitaire, un peu comme en cancérologie, le système immunitaire peut être un ami ou un ennemi et on peut éventuellement le modifier. Alors, le mot le plus magique, c'est quand même bien les cellules souches. Alors, il y a deux cibles possibles pour les cellules souches. On peut jouer sur le trabéculum, puisque la maladie vient du trabéculum. On pourrait essayer de redoper les cellules qui ont quasiment disparu, on le voit sur la photo du haut, à gauche, dans le glaucome, alors que normalement, elles devraient être extrêmement nombreuses. Donc, remettre en route une population riche en cellules trabéculaires ne pourrait être qu'une bonne chose. Et évidemment le nerf optique, puisque on voudrait faire régénérer les cellules nerveuses. Alors, les cellules souches ont été utilisées. En toute confidence, mon équipe a eu des très jolis résultats expérimentaux sur des cellules souches, ce qu'on appelle les cellules souches mésenchymateuses, mais il y a d'autres variétés de cellules souches. Parce que la cellule souche est une cellule qui est quasiment immortelle, c'est une cellule souche qui est capable également de se transformer en ce que l'on veut en fonction de l'environnement dans lequel elle se situe. C'est pour ça que les cellules souches dans un os, ça fait de l'os, dans une articulation, ça fait de l'articulation, et ainsi de suite. Et au milieu de neurones, ça peut faire des neurones. Encore faut-il que les neurones dans l'œil aillent au bon endroit, se connectent aux bonnes cellules, suivent le chemin du nerf optique jusqu'au cerveau et se connectent du bon côté. On en est malheureusement quand même relativement loin. Et outre un danger dont je vais vous parler juste après, il ne faut pas oublier que les cellules souches ont aussi une autre propriété, c'est celle d'avoir des effets biologiques. Biologiques, c'est-à-dire qu'elles libèrent des produits qui sont positifs pour leur environnement. Des effets anti-apoptose, anti-fibrose, donc cicatrisation, des effets neuroprotecteurs, des effets anti-inflammatoires et immunomodulateur ou pro-angiogénique, c'est-à-dire capable de restaurer une vascularisation normale. Tout ça, c'est plutôt sympathique. Et finalement, c'est probablement la piste. Parce que dans d'autres maladies que le glaucome, les cellules souches ont déjà été utilisées et ont déjà entraîné des complications dramatiques, avec des pertes d'yeux. Il y a même des cliniques de cellules souches. Si vous allez sur Internet, vous verrez que des Chinois, des Turcs et même à un moment des Américains, que l'on aurait pu croire plus sérieux ou moins naïfs, avaient organisé des cliniques dans lesquelles on injectait dans l'œil des cellules souches, avec des résultats épouvantables, parce que malheureusement, elles ont tendance aussi à créer des cicatrisations, des proliférations et entraîner des décollements de rétine. D'ailleurs, expérimentalement, nos travaux ont montré que si les cellules souches étaient intéressantes sur certains aspects, il y avait trop de complications. Et donc, nous travaillons actuellement sur une administration plus médicale, c'est-à-dire la cellule souche est aussi une usine, et cette usine peut produire des produits ou des combinaisons de produits qui sont positifs pour essayer d'améliorer la situation. Et puis, nous avions vu, et d'autres ont vu, que les cellules souches ont un effet provisoire. On ne peut pas imaginer sur des systèmes extrêmement complexes, puisque ce sont des cellules souches prises à partir de la moelle osseuse, par exemple, on ne peut pas imaginer d'aller refaire des cellules souches tous les 6 mois ou même tous les ans, et d'autant plus que l'efficacité risque d'être même plus courte que cela. Alors, l'autre mot magique, c'est la thérapie génique. La thérapie génique, elle consiste à prendre un virus, à charger ce virus d'un gène, à l'administrer là où on veut. Souvent, on l'associe à un gène que l'on pourrait appeler gène moteur, un gène qui va cibler le virus pour qu'il aille plus particulièrement dans les cellules cibles. Et tout ça, c'est une thérapie génique qui est tout à fait accessible et largement utilisée. Le problème du glaucome, c'est que il est certes familial, avec un caractère héréditaire, mais il est rarement monogénique, en ce sens que il y a effectivement certains gènes qui, dans à peu près une dizaine de pourcents de glaucome, correspondent par leur déficit à l'initiation d'une hypertonie oculaire par destruction du trabéculum. Mais la plupart des glaucomateux ne répondent pas à une génétique monogénique. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans certaines maladies où il manque un gène et donc d'apporter ce gène guérirait la maladie. Donc la voie de la thérapie génique pour apporter le gène manquant n'est pas adaptée au glaucome. En revanche, on peut très bien imaginer une thérapie génique qui aujourd'hui n'existe pas, mais dont les outils sont aujourd'hui totalement présent, c'est d'aller administrer un gène qui n'a pas de rapport avec le glaucome, mais qui va libérer ou coder plus exactement pour une protéine qui aura des effets positifs, régénératifs par exemple, peut-être anti-inflammatoires, qui, s'ils sont administrés au plus près des cellules qui sont victimes de la maladie, les cellules ganglionnaires par exemple, ou les cellules gliales qui leur sont voisines et qui les nourrissent, pourrait donc apporter des facteurs positifs. Beaucoup de travaux sont prometteurs dans ce domaine-là, mais à nouveau, ils n'existent pas de manière pratique. Alors pour conclure, je veux répéter qu'aujourd'hui, lorsque l'on découvre un glaucome, au stade où on le découvre, dans, on pourrait dire, plus de 90% des cas, on est capable, par un moyen ou un autre, médical, physique, laser ou chirurgical, de stabiliser le glaucome. C'est-à-dire que notre succès, c'est de bloquer la maladie. Comme elle reste très longtemps silencieuse, que pendant très longtemps elle ne gêne pas, elle n'est même pas ressentie, si on le découvre à ce stade, il est très clair que l'on peut gagner et garder à nos patients une qualité de vie, une qualité de vision optimale toute leur vie. Évidemment, tout l'enjeu, c'est de le découvrir tôt, et je ne saurais insister sur le fait que la meilleure catégorie de personnes sur lesquelles la détection est efficace, ce sont les familles, les enfants, les neveux, les petits-enfants. Il faut les avertir pour qu'ils puissent se faire détecter en disant bien à l'ophtalmologiste qui va les examiner, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont touchées par du glaucome. Je vous remercie de regarder si je suis menacé ou si j'ai un début de glaucome. Dans ce cas-là, la détection sera efficace. Elle sera effectuée tôt, à un moment où la vision n'est pas impactée, ni à son début, ni évidemment de manière importante, car nous sommes efficaces en neuroprotection par une seule méthode. Aujourd'hui, c'est la seule qui a fait ses preuves, mais elle a réellement fait ses preuves, c'est le contrôle de la pression oculaire. Je vous remercie et suis évidemment prêt à répondre à toutes les questions.